c'est parti pour Barbatruc, le rendez-vous des parents.
Deux chats, il y avait Confetti et Omaï.
Les deux étaient très gentils. Ouais.
Mais Confetti était un peu genre sauvage.
Le chat il s'appelle Minou et les poissons on n'a pas encore donné de nom.
J'aime beaucoup les chevaux, les chats, les renards et aussi les chiens.
Moi c'est les écureuils et les poulpes et les pandas.
Moi c'est le léopard parce qu'il court vite.
Pendant le confinement j'étais à la maison et du coup j'ai eu des poules. Et deux, ça se fait manger par le renard.
Alors, j'aime beaucoup les animaux parce que c'est quelque chose de très beau. Même n'importe quel animal, même un rat, quelque chose, ça peut quand même être cool. C'est pour ça que j'aimerais bien être vétérinaire plus tard.
La poule, elle s'appelle Coquillette. Elle s'enfuit tout le temps.
Et on va aussi bientôt avoir un chien. On voulait en adopter un à la SPA. C'est surtout mon père qui voulait parce que quand il était petit, il avait aussi des animaux et des chiens.
J'adore les animaux, j'ai la passion pour m'occuper d'eux, pour les sortir de ça, etc. Voilà.
Parce que c'est mignon. C'est joli, c'est tout doux.
Je trouve que les chiens, c'est gentil, c'est fidèle. On peut leur apprendre des tours, les caresser. Enfin, j'aime beaucoup les chiens, du coup, j'aimerais bien avoir.
Moi, je prendrais un renard, parce que c'est rusé.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un barbatruc en plume que je vous propose cette semaine, en plume ou en poil, ou même en écaille, que sais-je. Parlons du lien qui se noue entre un enfant ou un ado et un animal domestique. Le chien, le chat, le poisson rouge est souvent un membre de la famille à part entière. Nous allons tenter d'explorer la richesse de cette relation entre l'animal et l'enfant à tous les âges, essayer de comprendre cette fascination qui est bien souvent réciproque. Quel bienfait apporte ce lien à l'enfant dans son développement ? Des bienfaits qui ne sont pas systématiques ni magiques, hein, précisons-le d'emblée. Il nous faudra aussi parler de la peur des animaux, très forte chez certains enfants. Et puis je m'adresse aux enfants qui réclament à tout craint un chat ou un chien à leurs parents et n'arrivent pas à les convaincre. Sans doute, cette émission fournira-t-elle quelques arguments précieux. Au programme également, les conseils de livres jeunesse de Denis Chessou. L'as-tu lu, mon petit loup ? Ce sera autour de 15h50. C'est parti, les animaux et les enfants, copains comme cochons.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, préparée par Margot Page, réalisée par Christophe Imbert avec Alexandre Chenet à la technique. Bonjour Thierry Bédossa.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes vétérinaire, président de l'association Agir pour la vie animale, auteur notamment d'un guide pour les propriétaires de chiens aux éditions Anne Carrière qui s'appelle Tout sur le toutou. Alors je vous ai déjà reçu dans une autre émission il y a quelques années et j'en garde un souvenir marquant. Pour une raison très simple, c'est que vous parlez le chat couramment, Thierry Bédossa.
Ah,
vous miaulez.
En fait, c'est parce que je les fréquente et je vis dans leur intimité depuis que j'ai à peu près 20 ans.
Vous les imitez plutôt que vous ne communiquez avec eux ?
Il y a un peu des deux, parce qu'en fait, un chat, il communique avec nous d'une manière qu'il n'utilise pas dans la nature pour communiquer avec ses congénères. Il exprime l'envie qu'il a d'interagir avec nous en nous regardant, en s'approchant de nous, en faisant certaines mimiques, comme par exemple patouner, se frottant contre nous, frottant
patouner,
certaines
c'est
zones.
C'est bouger les pattes.
Ouais, voilà, bouger les pattes, faire comme le petit chaton qui tête sa maman et qui pétrit la mamelle et qui va déclencher comme ça la sécrétion lactée. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que, mais vraiment extraordinaire, c'est que le petit chaton et la mère qui sont dans des états extatiques quand la maman s'occupe du petit chaton et le petit chaton, il est contre le chaud de sa maman, eh bien, ils vont ronronner l'un envers l'autre seulement à ce moment-là dans le vivant et dans la nature. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le chat, quand il se lie à un humain, ou à des humains en général, ça dépend vraiment de la personnalité des chats, eh bien, il va se mettre à ronronner pour ces humains. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui est issu du processus de domestication, mais c'est la preuve que cette bête, elle n'a pas été contrainte, elle n'est pas en souffrance quand elle est avec nous et dans notre proximité, elle est en extase. Et c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire finalement à un individu. Je suis en extase quand je suis à côté de toi.
C'est pas faux. Ma deuxième invitée pour parler des animaux et des enfants est à distance. Bonjour Marine Grand-Georges.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes éthologue, maîtresse de conférences à l'université Rennes 1, également docteur en psychologie. L'éthologie, Marine Grand-Georges, c'est l'étude du comportement des animaux et des êtres humains. Est-ce que vous avez choisi votre camp entre chien et chat ?
Alors non, j'ai pas choisi mon camp. Je m'intéresse finalement à tous les animaux de compagnie, chien, chat, mais aussi les cochons d'Inde et puis les plus gros animaux comme les chevaux.
Vous travaillez notamment auprès d'enfants avec autisme, Marine Grand-Georges. L'animal et l'enfant avec TSA, une relation au quotidien. C'est le titre du livre que vous avez publié chez L'Harmattan. Les TSA, je le précise, ce sont les troubles du spectre autistique. Alors, on va essayer au fil de cette émission de parler de tout le bien que peut faire un enfant ou un ado la vie au quotidien avec un animal. Mais il faut peut-être préciser d'emblée que rien n'est magique, hein, que ça ne marche pas, si j'ose dire, à tous les coups, Marine Grand-Georges.
Oui, en effet, il ne faut pas voir la relation à l'animal comme une injonction, puisque certains enfants ne s'y intéressent pas, certains en ont peur ou même sont allergiques. Donc, dans la mesure du possible, c'est chouette de proposer de rentrer en lien, en relation avec un animal de compagnie, mais il ne faut pas pour autant être inquiet si jamais son enfant ne s'y intéresse pas. Il ne faut surtout pas le forcer.
Des animaux et des enfants, c'est Barbatruc jusqu'à 16h. Et on fait d'abord un crochet par le plat pays qui est celui d'Angèle.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Extrait du prochain album d'Angèle sur France Inter. Barbatruc, c'est le rendez-vous des parents, une émission pour échanger autour de l'enfance et de l'adolescence. Et nous parlons bestioles aujourd'hui, animaux de compagnie plus précisément, avec Marine Grand-Georges, éthologue, et Thierry Bédossa, vétérinaire. Il est peut-être important, Thierry Bédossa, de bien distinguer les enfants qui vivent à la campagne et ceux qui vivent en ville sur ce sujet-là précisément.
Ah oui, vraiment, parce qu'en fait, la qualité d'environnement et donc la qualité de vie au quotidien qu'on peut offrir à un animal, quel qu'il soit, quand on vit à la campagne, elle est très différente de celle qu'on peut lui offrir quand on vit à la ville. Et ça introduit une vraie inégalité dans la capacité d'un foyer à détenir un ou plusieurs animaux pour faire plaisir aux enfants, pour leur apporter du bonheur, pour leur apporter de la joie, pour leur apporter de l'équilibre, pour contribuer à leur bon développement. Et c'est vrai que c'est une vraie inégalité. Donc en général, on dit toujours que y a un vrai désavantage dans les territoires par rapport à la ville. Et ben là, pour une fois, on va amener un vrai avantage à vivre en campagne parce que là, on a un environnement favorable.
Sauriez-vous dire pourquoi les animaux attirent-ils autant et fascinent-ils autant les enfants, Marine Grand-Georges ?
Alors les animaux, on les a justement domestiqués, on les a sélectionnés au fur et à mesure des générations pour des critères esthétiques notamment, et pour des grands yeux, pour des formes de peluche où on a envie de prendre soin d'eux. Et donc les enfants ont aussi envie de prendre soin des animaux par rapport à leurs caractéristiques physiques qu'on a choisies.
Donc c'est d'abord une attirance physique.
On peut avoir l'attirance physique et puis après il y a tout ce qui est bien fait qu'on peut retirer de cette relation. Mais pour les enfants, c'est aussi une situation où, pour la première fois, ils peuvent eux-mêmes prendre soin d'un autre être. Quand on est enfant, souvent, les parents, les grands-parents prennent soin de soi. Et là, d'un seul coup, on peut prendre soin d'un autre être vivant. Donc, on commence à se responsabiliser, à améliorer son estime de soi. Donc, c'est tous ces paramètres qui font que l'animal peut être très attractif.
Donc c'est le premier bienfait dont on peut parler hein, quand un enfant vit avec un animal, c'est l'apprentissage de l'empathie, tout simplement, Thierry Bedossa.
Ah oui, certainement. C'est l'apprentissage en fait de l'altérité, c'est-à-dire on est face à un autre qui est très différent de nous, qui a des besoins différents de nous, qui ne parle pas notre langue, et donc il va falloir se mettre en situation de bien s'occuper de lui apporter du bonheur, de lui apporter sa nourriture, et donc on apprend l'altérité, on apprend l'autre.
Nous allons écouter des enfants, les témoignages recueillis par Juliette Proutot, notre reporter, sont la pierre angulaire de cette émission. La première question qu'elle a posée aux enfants qu'elle a rencontrés cette semaine, la voici. Qu'est-ce que tu fais avec ton animal de compagnie ?
Vraiment, c'est bien d'avoir l'animal, comme ça on se sent moins seul. Par exemple, quand on est mal, il peut nous consoler, nous faire des bisous.
Moi, je leur parle plutôt de mes problèmes. Quand je me sens seule et quand je n'ai pas de quelqu'un à qui parler, je parle à mon chien.
Oui, oui. On joue, etc.
Après, on fait des jeux ensemble avec Tania. Mmh. On les entraîne aussi. On fait plusieurs trucs avec eux. Ma grand-mère, elle a une cour et on joue beaucoup avec eux. On leur laisse la balle, on les éduque, tout ce qu'il y a à faire pour laisser les amuser, quoi.
Quand on est seul, par exemple, à la maison, on n'est pas seul au final. On a quelqu'un.
Parce que je sais pas comment expliquer, mais c'est trop bien, c'est un ami. Enfin, c'est quelqu'un d'autre ami.
Pourquoi c'est bien d'avoir des animaux ?
Parce que ça fait des bébés. Mais dans
ça
les...
fait des mais ça des... fait des chatons, des bébés léopards, mais... d'autres. Ouais. Des petits animaux, oui, donc nous on peut jouer avec nous alors que les grands ils sont plus agressifs.
Et les chats, on peut pas, ils peuvent pas faire de bébés puisqu'on les a coupé la molaire.
Les testicules.
Les testicules.
De temps en temps, quoi.
Moi je lui dis à mon minou, c'est un mâle, je lui dis miaou, 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 miaou.
On est un peu plus libre parce que, du coup, par exemple, quand on sort, nos parents ils savent qu'on est avec un animal, quoi, qu'on est avec, par exemple, son chien. Par exemple, on peut aussi lui parler si on veut.
J'aimerais bien avoir un chien parce que je trouve que les chiens, c'est fidèle. Alors que je veux pas renforcer les gens, mais les chats, c'est peut-être mignon au début, mais franchement, ça bouge pas, ça ronronne et ça demande à manger. Puis voilà, c'est tout.
Voilà, les molaires des animaux n'ont pas d'incidence sur leur fertilité, c'est important de le préciser. Reportage tourné dans plusieurs arrondissements de Paris, la précision là aussi est importante, ce sont des petits parisiens et de petites parisiennes qu'on a entendus. Moi je suis frappée par cette forte tendance à parler aux animaux domestiques, Marine Grand-Georges, est-ce que vous êtes surprise ?
Pas du tout, c'est quelque chose qu'on retrouve, quel que soit l'âge qu'on a, petits-enfants, adolescents et même nous adultes, on considère les animaux comme des membres de la famille, comme des amis, comme des confidents. Et ils ont cette caractéristique qu'en fait d'être non-jugeants. Vous aurez fait une bêtise, vous aurez une mauvaise note à l'école, c'est pas grave. Votre chien, votre chat viendra quand même chercher des câlins, viendra jouer. Et ça, c'est une faculté que les enfants adorent. C'est un vrai partenaire au quotidien, voire leurs meilleurs amis.
L'animal ne nous juge pas, c'est pour ça que souvent les enfants les aiment autant. C'est un allié, c'est un confident, parfois même un doudou vivant. Peut-être faut-il faire attention aux élans de tendresse des plus petits d'ailleurs, avec ce doudou sur pattes, Thierry Bédossin.
Ça fait plus de 35 ans que j'exerce et je n'ai jamais vu dans mes expériences, hein, je consulte chaque jour et 35 ans de vie de praticien, ça fait beaucoup quand même. Je n'ai jamais vu d'enfant qui étouffe, qui écrase, qui fasse du mal intentionnellement, mais même non intentionnellement à son petit animal de compagnie. Je pense que les enfants sont bien encadrés par les adultes pour justement avec des adultes qui leur apprennent à prendre soin du vulnérable. Et c'est vrai que cet animal ou ces animaux, ils ont des qualités relationnelles extraordinaires parce que c'est vrai qu'ils sont non jugeants, comme le disait si justement Marine, mais en plus ils sont presque toujours, c'est aussi le fait de la sélection artificielle sur les animaux domestiques, mais ils sont presque toujours contents d'être avec l'enfant, si la relation est de qualité. Ils sont fidèles, ils sont le confident, ils sont celui avec lequel on peut communiquer, mais ils sont ceux aussi, j'ai entendu ce mot souvent, hein, ils sont ceux aussi avec lesquels on peut jouer, avec lesquels on ne se sent pas seul. Ils sont ceux aussi avec lesquels on se sent en sécurité quand il s'agit du chien avec lequel on va.
C'est pas
promenade.
Rien d'employer ce mot, de
ah
sentir
non,
en
ah
sécurité.
Ah non, ils sont jolis, ils sont tout doux. Enfin, ce sont les mots que j'ai entendus des enfants. Et finalement, qui a ce type de qualité relationnelle aussi complète, je sais pas. Ou alors, il faudrait 50 peluches dans le lit.
J'ai aussi entendu le verbe entraîner. On entraîne son animal, on lui fait faire de l'exercice, on se transforme en coach sportif finalement avec son animal de compagnie.
Oui, c'est une formidable responsabilisation. Et quand on dit entraîner, en fait, on apporte des apprentissages. Donc on est déjà celui qui apprend à un autre. C'est fantastique.
Alors l'apprentissage, Marine Grand-Georges, ça concerne les deux, l'enfant comme l'animal.
Oui, complètement. Il y a une réciprocité dans la relation. L'animal entraîne l'enfant à différents âges, à différentes compétences, mais l'inverse est totalement vrai aussi.
On parle beaucoup depuis le début de cette émission des chiens et des chats, mais les poissons, par exemple, sont aussi des animaux de compagnie. Est-ce que vous diriez que ça a des vertus apaisantes, par exemple, au sein d'une famille et auprès des enfants en particulier, les poissons, Marine Grand-Georges ?
Au premier plan, on se dit un poisson, c'est presque un ornement, je caricature. Mais avoir un aquarium a des vertus apaisantes. Ça permet aussi d'entraîner le don d'observation. On a la possibilité de se mettre devant l'aquarium, repérer les poissons en fonction des couleurs. Donc pourquoi pas aller vers un poisson ou des poissons si jamais on vit en appartement ou qu'on a peu de temps à consacrer à son animal. Un poisson vous en voudra pas si vous êtes absent de votre domicile pendant 12 heures ou un week-end. Un chat ou un chien, je pense que ce sera plus compliqué.
Je retiens cette phrase. Le poisson ne vous en voudra pas. Thierry Bédossin.
Je rebondis complètement sur ce que dit Marine, mais avec un autre angle. C'est-à-dire que bon, moi, je suis un militant vraiment de plus en plus engagé en vieillissant de la protection animale, ce qui veut tout dire et rien dire. Mais quand on accueille un animal ou des animaux dans son foyer, il faut se préoccuper de leur donner une qualité d'environnement, une qualité d'emploi du temps au quotidien. Et donc, quand on accueille un animal comme un poisson ou comme des poissons, ça veut dire que il faut leur donner une qualité d'environnement, il faut les nourrir, il faut s'assurer que l'eau est bien oxygénée, que l'eau est bien filtrée. Donc on s'oblige à bien faire, on s'oblige à bien s'occuper de l'autre. Et c'est vrai que entre le discours et les attitudes des vétérinaires il y a 30-40 ans où on n'était pas trop guidant ou jugeant sur une famille qui accueille un animal. Et aujourd'hui, on insiste vraiment sur la bien-traitance. Se donner les moyens de bien traiter, de bien accueillir ce petit individu ou ces individus qu'on accueille, aussi petits soient-ils. Ça, c'est quelque chose de très fort aujourd'hui. La considération pour les animaux a énormément augmenté. En tout cas, dans les discours, dans les faits, c'est pas le cas, mais dans les discours. Et du coup, il va y avoir non pas ce discours moralisateur, mais ce discours de bienveillance. On veut leur donner le meilleur possible.
L'animal peut aussi être un outil de médiation, notamment dans les crèches avec les tout-petits enfants. On y vient dans un instant.
Barbatruc sur France Inter avec Dorothée Barba.
C'était Adèle sur France Inter, Easy on Me, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. Le vétérinaire Thierry Bédossa est mon invité dans Barbatruc, ainsi que l'éthologue Marine Grand-Georges en ligne avec nous à distance depuis la Bretagne. Et nous parlons de la relation entre les enfants, les ados et les animaux. Question, comment s'occuper correctement d'un animal ?
Déjà, faut un endroit où le faire dormir. Hein. Il faut aussi s'en occuper, le sortir quand il a besoin de faire ses besoins, l'habituer à faire ses besoins à l'extérieur de la maison, si on a jardin, sinon faut le sortir. Il faut, si c'est un chat par exemple, il faut une litière, sauf si vous l'emmenez dehors, faire ses besoins. Mais sinon, il faut un endroit où dormir, il faut s'en occuper, il faut lui donner à manger, à boire. C'est des gentils animaux, c'est dur à s'occuper, mais il faut avoir la patience et... tout ce qu'il faut pour s'en occuper, quoi.
Quand tu veux un câlin, il y a l'un de ton chat, il faut pas lui sauter dessus et lui faire un câlin. Il faut d'abord lui faire sentir ta main et s'il veut pas,
il faut les nourrir, il faut nettoyer l'aquarium.
Il faut changer l'eau.
Et on a aussi un petit jouet pour les poissons.
Les poissons, ils jouent ?
Oui.
C'est quoi ?
En fait, c'est un aimant. On met l'aimant dans l'eau et il y a un autre aimant de l'autre côté. Donc quand on l'attire par ici, les mains essuient. Donc les poissons essuient les mains.
C'est pour nettoyer les vitres quand il y a des saletés.
La litière, c'est papa parfois. Après, on leur donne des croquettes et de l'eau.
Il faut leur mettre une litière, il faut les nourrir avec des croquettes, il faut lui mettre une petite fontaine pour boire et... Un tout petit seau genre carré avec deux ronds.
Et ça, c'est les parents ou c'est les enfants qui doivent faire tout ça?
C'est les parents et les enfants.
Dans notre maison, c'est les deux parce que de temps en temps, c'est les parents, mais c'est plus souvent les parents.
Propos recueillis par Juliette Proutot. Gros sujet, évidemment. Hein. Qui s'occupe des animaux à la maison? Moi, je retiens cette phrase. La litière, c'est plutôt papa, parfois. Marine Grand-Georges, il faut avoir cette discussion avant d'adopter un animal, évidemment.
En effet, c'est important de discuter avec ses enfants de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et surtout qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en fonction de l'âge, puisqu'on ne va pas demander à un enfant de 3 ans de changer une litière alors qu'un ado peut le faire. Donc voilà, c'est une discussion à avoir avant l'adoption, mais quel que soit le résultat de cette discussion, c'est quand même le parent qui aura à charge de veiller que les besoins de l'animal soient satisfaits au quotidien.
Et Thierry Bédossa, votre expérience de vétérinaire prouve que c'est toujours les parents qui s'y collent, j'imagine.
Alors, ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant, du petit enfant, de l'adolescent, du jeune adulte. Ça, c'est un facteur important. Et puis, ça dépend aussi de l'intensité de l'emploi du temps et des responsabilités professionnelles des parents. Donc, je peux pas faire de généralisation. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de la personnalité de l'enfant. Ça dépend de la forme que prend la relation. Plus l'animal est important aux yeux de l'enfant, plus cette relation prend de l'importance, plus l'enfant, l'ado... le jeune adulte, le petit enfant va prendre du temps pour s'occuper de l'animal.
S'investir.
Oui. Et donc, vraiment, c'est impossible de faire une généralité. C'est vraiment au cas par cas.
Marine Grand-Georges,
Oui, si je peux raconter une anecdote, notre fils qui a pourtant que 20 mois a un grand plaisir en rentrant le soir, c'est d'aller chercher une friandise pour son chat. Ah. Et c'est vraiment le moment important quand il le retrouve.
Donc c'est lui qui s'occupe du chat, alors qu'il a même pas 2 ans.
Exactement, mais c'est juste une friandise, le reste n'est pas fait.
Le reste, il vous le laisse donc.
Exact, la litière et tout le reste, c'est pour papa et maman.
Allez, avant de poursuivre nos échanges animaliers, j'ai un truc à vous conseiller, piocher dans ma boîte à idées Barbatruc. De la musique, qui ne nous éloigne pas beaucoup de notre thème du jour d'ailleurs. Il est question d'un matou increvable.
Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il a même posté au Canada en lui disant « Tu resteras là ». Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant.
C'est de l'humour noir, comme les chats qui portent malheur parfois, dit-on. Steve Waring, le plus américain des chanteurs français pour enfants, fête ses 50 ans de scène avec un nouvel album. Un demi-siècle de concerts, peu cher. On y retrouve les plus grandes chansons de ce chanteur au banjo. Et c'est un vrai bestiaire. Les grenouilles, l'un de ses tubes incontournables, mais aussi une alouette et un hareng sort, et bien sûr, la baleine bleue.
Oh, 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 H2O. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Elle a trouvé beaucoup de choses, elle a trouvé beaucoup de choses.
Elle a trouvé beaucoup de choses, elle a trouvé beaucoup de choses.
Beaucoup de choses,
beaucoup de choses.
Mais pas de l'eau,
mais pas de l'eau.
Oh H2O,
oh H2O.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau. Déboucher tous ces tuyaux. Oh, 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 H2O.
Une chanson qui se déloge difficilement de la tête et que les enfants souvent adorent chanter à tue-tête. La baleine bleue, Steve Waring, 50 ans de scène. C'est un nouvel album disponible en CD à l'ancienne ou sur les plateformes musicales.
Une émission de Dorothée Barba sur France Inter.
Copains comme cochons, les animaux et les enfants, cette semaine dans Barbatruc, avec Marine Grand-Georges, éthologue, et Thierry Bédossa, vétérinaire. Et j'accueille à présent par téléphone une psychomotricienne, Claire Dorne-Corbel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes en ligne depuis le Pays Bigoudin, dans le Finistère, du côté de Pont-l'Abbé. Et vous travaillez sur ce lien entre les êtres humains et les animaux, notamment les enfants, ce sont eux qui nous intéressent dans Barbatruc. Vous travaillez dans un IME, Institut Médico-Éducatif, notamment avec des enfants porteurs de handicap, également dans des crèches. Alors, quelle bestiole, précisément, faites-vous entrer dans les crèches?
Alors, les bestioles, il faut qu'ils aient une dimension, qu'ils puissent rentrer dans une crèche.
Voilà.
Donc, ce sont des chiens, et plus particulièrement des petits chiens, des bergers des Shetland. Il y a tout un tas de protocoles à respecter, y compris en termes d'hygiène, en termes de lieux adaptés pour les enfants comme pour les animaux pour se rencontrer. Et puis après, c'est là sur la rencontre que je travaille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séance préétablie, il y a un cadre posé avec un endroit où les enfants sont installés sur des tapis et un endroit où les chiens sont installés dans leur petite caisse de transport ou sur leur panier, et on fait vivre cette rencontre, et on a un peu de matériel aussi pour développer des jeux, des actions, des temps de toucher, des temps de regard, et voilà.
Question que doivent souvent vous poser les parents, mais à quoi ça sert tout simplement de faire venir un chien à la crèche ?
Eh ben, ça sert à faire venir du vivant. On sort des écrans, on sort des rencontres, je dirais, qui ne se font qu'à travers des images ou des livres. On est effectivement dans une réalité avec du sensoriel, de l'émotionnel, du mouvement, des rires, des peurs, ça suscite l'intérêt, en tout cas. Et ça, effectivement, ça permet de travailler dans la projection plein d'autres éléments de la vie quotidienne des enfants à travers les animaux.
On parlait tout à l'heure de l'observation avec mes invités. J'imagine que c'est très vrai chez les tout-petits. D'abord, ils observent l'animal avant d'entrer en interaction avec lui.
Tout à fait. Les plus petits qui sont en crèche dans nos séances arrivent dans les bras en fait du personnel qu'ils connaissent bien. Et effectivement, on voit des yeux tout ronds qui suivent les déplacements des chiens. qui s'interrogent sur le fait qu'ils sortent de leur petite maison ou ils rentrent, entendent le bruit du chien qui va boire dans sa gamelle ou qui monte sur un petit support. Et effectivement, cette poursuite du regard, ces regards conjoints ou entre les autres enfants qui sont plus présents et un peu plus grands, le personnel et ma présence auprès de ces animaux, c'est vraiment tout à fait étonnant.
Vous avez l'impression souvent que les enfants s'identifient à ces animaux ?
Tout à fait, tout à fait. Qu'ils soient dans un IME porteur d'un handicap, en crèche ou en cabinet, voilà, on a beaucoup, beaucoup de projections, que ce soit des enfants, par exemple, adoptés ou en situation aussi de placement familiaux, qui m'interrogent sur le fait que ce chien ne voit plus son papa ou sa maman, ne le verra peut-être plus jamais. Tout ça, c'est des sujets qui nous permettent d'aborder les problématiques des enfants, plus ou moins classiques ou plus ou moins douloureuses selon les histoires des enfants.
En parlant de ces animaux, ils vous parlent d'eux, en fait, tout simplement.
Tout à fait, tout à fait. Et parfois, même sans avoir le langage, on sent bien que quand je reviens à la crèche sans les chiens, puisque c'est le cas, je viens une fois avec les chiens, une fois sans les chiens, ils m'interrogent très très vite, même en langage des signes bébé, sur le où est le chien actuellement, dans sa petite maison, au travail ailleurs. Et voilà, on sent qu'il y a plein de projections possibles.
Dans ce travail de psychomotricienne, vous utilisez, je crois, des chiens et des chevaux. Pourquoi pas des lapins, des chats, des hamsters, Claire Corbel?
Alors déjà, les chiens et les chevaux que j'utilise sont des animaux qui m'appartiennent, que j'éduque, que je...
Votre bestiarité, donc.
Depuis le départ, voilà. Ça veut dire un travail quotidien en dehors du fait que toute l'année, ils sont à mes côtés. Réintroduire d'autres animaux aussi, c'est introduire des animaux qui peut-être parfois ont du mal à s'adapter à des déplacements, à beaucoup de changements de personnes. Le chien est éminemment éducable et assez facilité par la relation à l'autre quand il est bien choisi. L'animal cheval a un côté magique, porteur, et qui vit dans la nature, qui nous amène d'autres possibilités de travail. Donc si je veux garder la qualité de vie des animaux que j'ai actuellement, réussir à être dans leur bien-être, multiplier aussi les animaux et avoir des animaux qui sont peut-être moins à l'aise dans la relation et dans les déplacements, c'est un choix que j'ai fait.
Alors pour ce qui concerne les chevaux, je crois que vous travaillez notamment avec des adolescents et adolescentes. On choisit son cheval en début de séance ?
Très souvent, les bénéficiaires, les patients, les adolescents vont vers les animaux dans leur choix qui vont soit les obliger à se positionner, soit au contraire vont les aider à trouver vraiment d'emblée un apaisement. Ça dépend vraiment de la problématique du jeune. Dernièrement, j'ai un jeune que j'accueillais pour la première fois, assez fluet et en même temps très gros bras dans son attitude, qui effectivement m'a annoncé que les chevaux c'était pas son truc, qu'il avait très très peur. Or, à notre première séance, on rencontre une fois les chiens, une fois les chevaux, donc on est aussi allé à la rencontre des chevaux. Et lui, d'emblée, a quand même été choisir un cheval justement plus imposant, extrêmement fiable, extrêmement gentil de mon point de vue. Mais voilà, lui, il avait besoin de chercher ça. Les choses se sont apaisées, il s'est mis à côté, il l'a regardé. C'est un jeune qui a un langage fleuri et extrêmement impulsif. Et j'ai vu ce jeune immédiatement se poser à côté de ce cheval, essayer d'être à l'écoute, comprendre ce qui se passait, pourquoi il communiquait comme ça, m'interroger, se retourner vers moi pour avoir des réponses à ses questions. Or, c'est pas du tout manifestement les modes de relation qu'il a dans son quotidien, y compris familial et dans ses échecs scolaires et social.
Voilà, le cheval comme outil de médiation. Merci beaucoup Claire Dorne-Corbel, psychomotricienne en Bretagne. Très bonne journée à vous, à bientôt.
Merci.
Copains comme cochons, des animaux et des enfants. Nous poursuivons ces échanges dans un instant. It's a strange day. No colors or shapes. No sound in my head. I forget who I am. When I'm with you, there's no reason, there's no sound. C'était les Britanniques de Goldfrapp sur France Inter. Le pétrel n'est pas un animal de compagnie, mais cet oiseau est dans Youpi, un magazine pour les enfants de 5 à 8 ans. Les tempêtes sont à la une en ce mois de novembre, avec un dossier sur le sauvetage en mer. Les petits découvriront la façon dont travaillent les sauveteurs et sauveteuses en mer. Et puis un focus donc sur le pétrel tempête. On a longtemps cru que cet oiseau marin annonçait les tempêtes. En réalité, c'est l'un des seuls oiseaux à tournoyer au-dessus des bateaux de pêche par tous les temps, y compris quand ça souffle fort. Le pétrel tempête n'a pas peur de la tempête. Espèce protégée que l'on appelle aussi l'océanite, c'est le plus petit oiseau des mers d'Europe. Youpi, spécial tempête, un magazine pour les 5-8 ans, magazine Bayard Jeunesse, à retrouver en kiosque ou sur abonnement. La compagnie des animaux, aujourd'hui dans Barbatruc, nous nous penchons sur le lien entre les enfants et les chiens, les chats, les poissons et même ce qu'on appelle les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, avec Thierry Bédossa, vétérinaire, et avec Marine Grand-Georges, qui est éthologue. Alors, il est important sans doute de distinguer les âges, Marine Grand-Georges. C'est pas du tout la même chose, ce lien dont on parle entre l'enfant et l'animal, selon que l'enfant est tout petit ou adolescent, évidemment.
En effet, on voit que avant l'âge d'un an, déjà, un enfant est capable de différencier un animal d'un humain ou d'une peluche. Et puis après, entre un an et deux ans, il va être apte à adapter ses faits et gestes en fonction de l'espèce. Il ne va pas se comporter de la même façon avec un chien, un chat, un cochon d'Inde. Et un peu plus tard, il va beaucoup développer sa relation dans le jeu. Il n'est pas rare de voir un enfant de 3, 4, 5 ans échanger des balles avec notamment son chien. Et on aura un point de passage dans le développement de l'enfant vers 5, 6 ans, où là, on voit cette relation aller vers le confident, l'ami, celui avec qui on partage les secrets, où on a beaucoup de câlins, de caresses. Et ça va durer jusqu'à à peu près la préadolescence. Et là, il y a un moment assez particulier où l'enfant rentre dans la préadolescence et s'intéresse beaucoup moins à l'animal.
Ah tiens.
Alors c'est pas... Oui, c'est assez fou. Alors c'est pas à 100% des enfants, mais vraiment cette entrée dans l'adolescence, l'enfant délaisse le chien, le chat, le cochon d'Inde qu'il avait adoré encore quelques mois avant, pour finalement, si ça se remet en place à l'adolescence, cette relation est de nouveau très forte, où l'animal reprend sa place de confident, mais sans sa place de doudou. On aura moins de câlins, on aura moins de choses très tactiles. Il aura juste cette place de confident et de meilleur ami.
Quel conseil donnez-vous aux parents pour affronter cette phase de désamour dont vous parlez, Marine Grand-Georges ?
Alors, il faut compenser, entre guillemets, pour que l'animal ne se sente pas délaissé. Et pourquoi pas en discuter avec son enfant, savoir s'il y a des raisons particulières à ce désamour. Mais en tout cas, ne pas la pointer comme quelque chose de grave, puisque l'enfant rentre quand même dans une période de développement qui est complexe, la préadolescence. Donc plus essayer de comprendre sans stigmatiser ce désamour qui s'installe le plus souvent de manière temporaire.
Thierry Bédossa.
Moi, je pense qu'il y a aussi, parce que ce sont des expériences que je vis au quotidien, je pense que la personnalité de l'individu a un rôle énorme de cet enfant-individu. En ce moment, j'accueille ma petite filleule, ça fait un an et demi que je l'ai pas vue, elle a 14 ans et demi, elle est dans une période très difficile de son développement, elle est, entre guillemets...
Ado.
Ado, et c'est la première fois, alors que... De l'extérieur, il me semble qu'elle est vraiment en train de s'affirmer. Eh bien, c'est la première fois qu'elle voyage avec son petit chien, qui est un petit chihuahua que je lui ai offert quand elle avait 6 ou 7 ans. Et c'est la première fois qu'elle a besoin de lui. C'est extraordinaire. Et donc, de l'extérieur, on pourrait penser que, que non, elle est dans la pleine affirmation de soi et que c'est le moment où elle va le moins considérer sa relation à son animal. Eh bien, c'est le moment où on penserait jamais qu'il a autant d'importance pour elle en ce moment.
Marine Grandjean, vous ne disiez pas évidemment que tous les préados et tous les ados se désintéressent à un moment de leur animal, hein, mais c'était des tendances générales, j'imagine.
Bien sûr, c'est des tendances et heureusement qu'on a des exemples qui vont à l'encontre des tendances. Mais ce que Thierry dit justement, c'est qu'à l'adolescence, non, justement, les liens sont encore plus forts et cette inversion de rôle où on a vraiment besoin de l'animal à cette période charnière, c'est une réalité.
Écoutons à nouveau des enfants, si vous le voulez bien. Sujet important, la peur de l'animal. Juliette Proutot a tendu son micro.
Quand j'étais petite, j'avais un petit peu peur des gros chiens, mais après, là, ça va.
Moi, oui. J'ai peur des gros chiens.
C'est un jour. En fait, m'avait vraiment mordu... Enfin, c'était mon hamster, il m'a vraiment mordu peur. Et j'étais terrifiée de la porter. Et puis après, un jour, j'ai découvert qu'elle m'a mordu parce qu'elle avait peur. Parce qu'en fait, c'était un bébé et elle avait très peur. Donc du coup, je l'ai habituée dans mes bras. Et puis après, ça a passé.
C'était pas vraiment une peur, mais c'était une peur. Il y avait ma chienne et c'était enfui.
Une fois, il y a une voisine de chez nous qui a caressé un chat et le chat l'a sauté au visage. C'était un chat comme les tigres.
Alors, je me tourne vers le vétérinaire Thierry Bédossa. Comment affronter de la part des adultes la peur de l'enfant à l'égard des animaux ?
Je pense qu'il faut regarder dans son cercle relationnel et se tourner vers d'autres foyers avec des enfants du même âge qui sont à l'aise avec les animaux. Et je pense que le meilleur facteur d'apprentissage pour un enfant, c'est de connaître un autre enfant de son stade de développement qui, lui, n'a pas peur et qui va amener l'enfant qui a peur vers plus de familiarité avec les animaux. En tout cas, moi, de toutes mes expériences, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Et après, il y a des expériences traumatisantes. Je pense que le petit enfant qu'on entendait...
Mordu par un hamster.
Alors, celle-ci, je trouve qu'elle a très bien compris. Ses parents ont très bien
lui expliqué. Elle a été mordue peur.
Oui.
Le mot est joli.
Voilà. Mmh. Donc, ses parents lui ont très bien expliqué. Et je pense qu'elle-même, elle est consciente de l'autre, de l'altérité. Mais il y a un petit enfant qui parlait d'une histoire, d'une dame qui s'était fait, ou d'un monsieur qui s'était fait attaquer au visage par un chat. Et je pense que lui, ça le traumatise. Et donc, il faut faire attention à l'impact des histoires qu'on raconte aux enfants.
J'aimerais qu'on dise un mot du deuil, Marine Grandjean et Thierry Bédossa, parce que c'est quelque chose qui est souvent minimisé par les adultes autour. Perdre un animal, c'est extrêmement douloureux, évidemment. Comment affronter cette épreuve et comment aider l'enfant ou l'ado à la surmonter, Marine Grandjean?
Alors, il ne faut pas hésiter à en parler avant même que ça arrive, avec les mots adaptés en fonction de l'âge de l'enfant. Au moment où l'animal décède, ou si on sait qu'il est malade, on peut préparer ce deuil, ce décès, par exemple en faisant des empreintes du chien, en coupant un petit morceau de la touffe du poil du cochon d'Inde pour garder un souvenir et finalement continuer à entretenir ce lien par une trace de l'animal alors que celui-ci sera plus là.
Thierry Bédossa.
Une sale histoire de vétérinaire. Je connais des parents qui remplacent l'animal... décédé par un autre et avec l'objectif que leur enfant ne se rende compte de rien.
Mais non.
Mais oui.
Ça marche pas, ça.
Parfois, ça marche. Évidemment, il y a des parents, ils sont pleins de considération pour la sensibilité de leur petit enfant. Et comme l'a extrêmement bien dit Marine, ils préparent leur petit enfant. Mmh. Et souvent, l'explication qui va bien dans ce pays judéo-chrétien, c'est qu'il est parti au ciel.
Ah ouais.
Et ça fait l'affaire. Vraiment, ça marche, hein. Il est parti au ciel.
Ça fait le job.
Il est au paradis.
On n'a pas parlé de stress, Marine Grandjean. Le lien avec l'animal peut avoir des effets non négligeables sur le stress de l'enfant.
En effet, on a des études scientifiques qui montrent que la simple présence d'un animal va diminuer le stress. Alors ça passe par exemple, le rythme cardiaque qui s'apaise, ça passe par une diminution du cortisol qui est une hormone de stress. On l'a testé dans des situations à l'école, par exemple, où l'enfant devait faire un exercice de maths ou de lecture à haute voix. Et il était beaucoup moins stressé quand un chien était à côté de lui que quand son parent ou son instituteur était là.
Il faut mettre des chiens et dans les classes alors?
Alors ça commence à se faire. On a l'association Handichiens qui remet des chiens d'assistance. Et depuis l'année passée, ils remettent des chiens qu'on appelle des CARS, chiens d'assistante de réussite scolaire. Donc dans des établissements, notamment pour des enfants ou des adolescents qui ont des difficultés dans les apprentissages, dans des classes Ulysse par exemple.
Thierry Bédossin.
Quand je fais des conférences, je suis très timide. Je fais toujours mes conférences avec un ou plusieurs de mes chiens à côté de moi, toujours. Ils me suivent partout. Je peux pas parler si j'ai pas mes chiens ou mes chats.
Ça vous donne une contenance.
Ça m'apaise. Pour de vrai, hein.
Allez, il est temps de retrouver Denis Chessou et ses conseils de livres pour enfants. Denis surveille de près la littérature jeunesse et sélectionne la crème de la crème. Au programme cette semaine, la fin des vacances et les complexes, la peur du regard des autres. Bonjour Denis.
Dorothée Barba sur France Inter. Là tu lis mon petit loup.
Bonjour Dorothée, bah oui, nous allons déminer tout cela avec d'abord vacances et imaginaires, avec mes vacances chez mamie de Xiehua et Wanli aux éditions Hongfei à partir de 5 ans. Alors c'est la fin de l'école et le début des vacances. Xiaoma n'attend qu'une chose, partir chez mamie, c'est de loin le meilleur moment de l'année.
Mamie habite un appartement, petit mais assez grand pour l'accueillir pendant l'été avec ses chevaux.
Même si ses chevaux galopent au creux de l'imaginaire de l'enfant, ils prennent néanmoins beaucoup de place. Et ça commence à chahuter au moment de la toilette.
Bon, vous mettez de l'eau partout.
Il n'est pas simple non plus de réussir à coucher tous ces animaux énergiques dans un si petit appartement.
Le lendemain matin, mamie fait son ménage quotidien. Les chevaux, eux, se dégourdissent les pattes dans la pagaille.
Le pire, c'est que ces chevaux se démultiplient. 1, 2, 3, 4, 5, mais oui, et puis il y en a encore plus.
Mamie, ils sont 10 aujourd'hui, répond Xiaoma le plus naturellement du monde.
Qui dit 10 chevaux dit 11 bouches à nourrir, et pas n'importe comment qui plus est.
Ne mélange pas les gamelles, elles sont numérotées. Comme pour les peaux, les grandes sont pour les costauds, les petites sont pour les genoux.
Le petit appartement de mamie tremble sous les claquements des sabots. Mais heureusement, les soirées sont plus apaisées.
La nuit tombée, tout est calme dans le petit appartement.
Mamie et Xiaoma profitent de la brise du soir. Les chevaux, eux, dorment. Ils rêvent.
Je pense qu'ils rêvent aussi de toi, mamie.
Puis le jour où Xiaoma doit rentrer dans sa maison arrive. Il part avec tous ses chevaux.
Ah, vous allez me manquer, dit mamie avec un petit sourire.
Mamie retrouve la quiétude de son chez-elle.
Cependant, son petit appartement paraît bien grand et bien vide sans Xiaoma et ses chevaux.
Alors quand reviendra-t-il? C'est un doux parfum d'enfance qu'exhale cet album pour y raconter la complicité et la dévotion des grands-parents envers leurs petits-enfants. L'énergie de Xiaoma, symbolisée par de drôles de chevaux imaginaires, est accueillie avec sérénité par sa grand-mère, dont le quotidien est pourtant complètement mis sans dessus-dessous.
En fait, c'est un joyeux choc des générations, Denis.
Ben oui, et qui éclabousse en tout cas d'amour et de tendresse, mais aussi de respect pour les aînés. Et dans ce livre, alors on ne sait plus trop ce qui relève de la réalité ou du fantasme d'enfant, ben les illustrations sont là pour faire s'entremêler la réalité à l'encre de mamie et l'imaginaire insaisissable et très coloré de Xiaoma. Donc, mes vacances chez mamie, chez Hongfei, album aussi doux et bourrifant, à offrir pour se rappeler à quel point le lien avec les aînés est précieux. Gros baquet signé Thomas Bass et Nicolas Digard, c'est pour les 4-7 ans chez Glénat Jeunesse. Si vos enfants ont des complexes, lisez Gros Bec.
Comme tous les matins, Albert Gros Bec noue sa cravate devant la glace. Qu'il est gros ce bec, ça ne s'arrange pas.
Et bien sûr, il pense que tout le monde ne voit que ça. Alors Solange Mésange, sa compagne, le connaissait sur le bout des plumes.
Mais cette histoire a trop duré, je l'aime beaucoup ton bec. Et si ton bec est si particulier, tu devrais gagner ce premier grand concours international de bec.
Hop, une cigogne l'embarque depuis l'aéronichoir de Strasbourg pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée où a lieu le fameux concours. Et en voyant les participants, Albert est médusé.
Ça alors, je n'aurais jamais imaginé si cruelle nature qui inflige à ces oiseaux des becs aussi extravagants. Des longs, des courts, des courbés.
On peut t'aider, dit Bec en sabot avec son rire communicatif en voyant Albert qui est complètement dépité. Incroyable, aucun des oiseaux n'avait honte. Au contraire, leur fierté les rendait beaux.
Vous venez pour le concours, dit Gudule la spatule. Pas du tout. Et Albert, rouge de honte, repartit avec la première cigogne venue à Strasbourg.
Et en rentrant, chez lui, devant sa glace...
Ça alors ? Ils m'ont tous appelé Petit Bec. Je n'avais aucune chance de gagner avec mon bec si petit, si banal, si délicat.
Alors dans notre grande série, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console, avec un humour bien tonique et un graphisme joyeusement efficace qui joue sur quelques couleurs, eh ben ce livre peut faire sauter certains verrous, libérer son propre regard de ses petits ou grands complexes physiques. Et quand on est petit, bah c'est vrai qu'on peut être à vif sur ces sujets, on peut faire vraiment une montagne d'un grain de sable. Et en plus, le gros bec, c'est un très très bel animal. C'est signé Thomas Bass et Nicolas Digard, c'est chez Glénat Jeunesse. Et c'est pour les 4-7 ans. Merci à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Et comme d'habitude, on clique à la rubrique « L'as-tu lu mon petit loup ?» sur le site de France Inter pour retrouver les références des livres. Barbatruc touche à sa fin. J'ai une dernière question à poser à mes invités. Le vétérinaire Thierry Bédossa, donc, et l'éthologue Marine Grand-Georges. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Marine Grand-Georges.
À moi, l'odeur de mon enfance, c'est les crêpes qui cuisent chez ma grand-mère, où là, on commence légèrement à sentir le grillé qui arrive. Bien sûr, il y a le goût qui est associé par la suite, mais c'est vraiment l'odeur de la crêpe.
Génial. Thierry Bédossa, quelle est l'odeur de votre enfance ?
L'odeur de la ferme.
Précisément ?
Je vivais avec mes grands-parents et la maison à côté, c'était tout en haut d'une montagne et c'était une ferme. Et j'étais tout le temps dans cette ferme, il y avait des vaches, il y avait un chien. Donc il y a la paille. Alors les fermes de montagne, c'est les vaches qui vivent au rez-de-chaussée et qui chauffent la maison au-dessus. Et donc c'est une odeur forte qui peut indisposer, mais en fait qui est ultra familière pour moi, à tel point qu'aujourd'hui, si c'est vrai, je pense, si j'ai pas l'odeur d'un chien à côté de moi, je me sens moins bien.
Des crêpes et une ferme, on met sous cloche ces deux odeurs qui sont autant de voyages dans le temps. Merci beaucoup à vous deux. Thierry Bédossa, on peut vous lire aux éditions Anne Carrière. Tout sur le toutou, un guide à l'usage des maîtres de chiens. Quant à votre livre sur le lien entre l'animal et l'enfant avec autisme, Marine Grand-Georges, il est publié chez L'Harmattan. L'animal et l'enfant avec TSA, une relation au quotidien. Bonne journée à vous deux, merci beaucoup et à bientôt.
Merci Dorothée.
Merci.